Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous et bienvenue à Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur. Donc voilà, autour de la table aujourd'hui, il y a Ben, Antoine.
Bonjour.
Et Marie-France.
Bonjour.
Et moi-même.
Morgane.
Et donc nous sommes là pour une nouvelle émission de Au ras des rues. Alors aujourd'hui, on aura une sélection musicale rap qui a été faite par Sébastien, un de nos collègues. Donc il y a du rap français et du hip-hop, alors anglais je crois, mais je suis plus sûre. Et sinon, en termes de programme, on parlera des curiosités territoriales. Qu'est-ce que c'est ? C'est Antoine qui nous présentera ça. Ensuite, on parlera des jardins du village olympique, donc le jardin olympique. C'est Marie-France qui nous le présentera avec un petit enregistrement, il me semble. Et je vous ferai une petite visite, d'ailleurs, des jardins du silo à la Villeneuve de Grenoble. Ensuite, on aura l'agenda avec une explication sur qu'est-ce que sont les tables de quartier. C'est Ben qui nous présentera ça et qui essaiera de nous expliquer quel est l'intérêt de ces tables de quartier pour les habitants. Enfin, ce sera tout. Aujourd'hui, ce sera tout. Ce sera déjà pas mal.
Une partie agenda.
Je l'ai pas dit. Bon, juste avant l'étape de quartier, tu pourras nous servir l'agenda
et
on fera un petit complément avec l'histoire des caddies dans les quartiers, villages olympiques et Villeneuve. Donc, Antoine, est-ce que tu veux bien nous parler de qu'est-ce que sont ces curiosités territoriales ?
Bien sûr. Alors d'ailleurs, ce ne sont pas les curiosités territoriales, mais bien les acteurs de curiosités territoriales. Donc, ça, en fait, c'est une initiative qui est partie de la Biennale Arts Sciences, et en fait avec l'Hexagone, donc qui représente un petit peu l'art, la scène théâtre, et puis... une autre partie, c'est plus du côté du CEA, les technologies. Et en fait, ils ont essayé de faire quelque chose.
Le centre d'études atomiques.
C'est ça. Qui ne travaille plus trop dans.
Et des énergies renouvelables.
Et des énergies renouvelables.
Ils ont une petite étiquette verte. Ils ont agrémenté le nom récemment, en fait.
Bon, ça fait 2-3 ans. Ouais. Quelque chose comme ça.
Mais alors voilà. L'idée, c'était un petit peu de mêler les sciences. Et puis l'art, et voir un petit peu aussi bien donc, ce qu'on appelle les sciences dures et les sciences molles, donc ce qui est un peu sciences exactes, chimie, maths, et puis les sciences molles, plus la sociologie, philosophie, et tout ça avec l'art, et voir comment ça pouvait s'articuler. Et il y a un petit bébé qui est né, c'est les acteurs de curiosité territoriale. Donc ça se passe pendant tout le mois d'octobre, il me semble que ça a dû commencer peut-être le...
15 septembre, je vois marquer.
15 septembre, ouais. Mais les parcours ont dû commencer un petit peu plus tard. Il y a eu un colloque avec Bruno Latour, qui est anthropologue, philosophe, sociologue français, où il a présenté un petit peu ce qu'étaient les questions du réchauffement climatique, et un petit peu comment l'art pouvait, l'esthétique en tout cas, pouvait rendre le discours scientifique audible. Et en fait, c'est un petit peu aussi ça, les acteurs de curiosité territoriale, c'était sur le changement climatique. Avec donc nous, on est allé à celui de la Villeneuve, et c'était sur la mobilité dans un contexte de réchauffement climatique.
Il y en avait dans tous les quartiers ?
Il y en avait dans pas mal, non pas tous les quartiers, mais dans pas mal de communes en fait. Il y avait, une bonne dizaine de parcours. Donc il y en avait au Sapé en Chartreuse, il y en avait à Grenoble, il y en avait à Fontaine, voilà. Mais je vous propose d'écouter donc le parcours de la Villeneuve.
Maintenant, on va essayer de se recentrer sur notre thème qui est la mobilité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, qu'est-ce que vous voyez la balade ? Comment vous la voyez la balade autour de la mobilité ? Qu'est-ce que vous aimeriez
On peut faire un petit peu un brainstorming là quand on est mobilité, niveau quotidien.
Ouais, il y a covoiturage qui me vient.
Moi, j'ai la liberté dans la mobilité.
Ah ouais, c'est clair.
On en parlait ce midi. C'était un cri du cœur, on dirait.
Moi, mobilité, en fait, je vois ça comme un terme assez institutionnel, genre, voilà, se déplacer, transport en commun.
Moi, je vois ça comme passer d'un territoire, la possibilité de passer d'un territoire à l'autre via la mobilité, en fait.
Il y a la plateforme mobilité qui vient de déménager. Juste au-dessus.
Allez,
on peut aller visiter la plateforme mobilité.
Tiens, si tu veux quoi le faire.
Allez, on y va.
Nous, en fait, on est là depuis la semaine dernière. Une semaine et demie là. On est venu ici. Donc avant, on était au 15 boulevard Joseph Vallier, dans l'agence de mobilité là-bas. Et en fait, eh ben, je sais pas, vous voulez que je vous dise qu'on fait ou qu'est-ce que... du coup, en fait, nous, on accompagne des personnes, on forme et on informe les personnes qui sont en insertion sociale et professionnelle à la mobilité, c'est-à-dire dans le sens apprendre à se déplacer. Donc voilà, après, bah, parfois il y en a, ils viennent avec l'envie de passer le permis et puis en fait ils apprennent à faire du vélo, puis ça suffit. Et ça leur convient. Et puis il y en a d'autres qu'on va accompagner jusqu'à ce qu'ils aillent en auto-école et qu'ils aient le permis par eux-mêmes.
Et c'est né d'où cette initiative-là
de... Et ben en fait, ça fait 4 ans maintenant que c'est ouvert. D'accord. Et en fait, c'est parti d'un accompagnement d'une action du centre social Mistral. Du coup, au centre social Mistral, il y avait une demande d'habitante. À l'époque, c'était que des femmes qui avaient dit, ben voilà, à l'auto-école, on galère, on n'y arrive pas, on paye des sommes pas possibles, on est à plus de 100 heures de conduite, on n'a toujours pas le permis, etc., etc. Donc, aidez-nous et accompagnez-nous. Nous. Donc du coup au départ au centre social on a créé une petite action qui s'appelait En route vers le permis et où c'était un moniteur auto-école qui donnait des cours, sauf qu'au fur et à mesure il a commencé à dire ben oui là en fait je donne pas des cours de code, je donne des cours de français. On a dit bon ben on va se rapprocher d'une activité sociolinguistique, ce qu'on a fait. Après à un moment donné il a dit ben voilà on va essayer de faire un essai en voiture. Elle dit mais en fait les personnes n'ont pas du tout la sensation, enfin elles n'ont aucune connaissance. Et du coup, elles ne comprennent même pas que quand on tourne le volant, c'est les roues qui vont tourner. Donc ça veut dire qu'après, quand elles vont aller en auto-école, mais elles vont payer des... c'est pour ça qu'on arrivait à des senteurs de conduite avec des gens pas de permis, parce que du coup, c'était très compliqué. Donc elle dit, il faut qu'on trouve d'autres moyens en amont de l'auto-école d'arriver à former ces personnes. Donc c'est là qu'on est passé par le vélo, c'est là qu'après on s'est aperçu que regardant l'espace, il y en avait besoin. Donc on a tout construit au fur et à mesure par rapport à une demande, je dirais qui est la demande, pas carotte, mais qui est un peu comme ça, où c'est, voilà, je voudrais mon permis. Je voudrais vous voulez vos permis. Ok, mais avant d'avoir le permis, on va passer d'abord par des étapes. Et souvent, bah, du coup, passer par ces étapes fait que en fait, bah, la personne dit, ah, bah, en fait, maintenant que je me déplace facilement, etc., bah, j'ai plus besoin du permis. Quoi.
C'est super.
Bon, après, ça arrive hein, que certains aient besoin du permis. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, dans la plateforme, par an, on accueille à peu près plus de 1000 personnes. Et sur l'auto-école, il y en a peut-être 60 qui vont y aller. Quoi. Donc la proportion, elle est là. Et puis, bon, les autres, ils vont développer leur mobilité, mais après, pas forcément aller.
Et donc, c'est une association ?
Non, c'est une institution publique.
Ah, c'est CCAS
Métro. CCAS okay. Ville de Grenoble. Donc,
De là,
c'est. Et Métro. Donc, on est un service public.
Okay.
Et après, à nous se rajoute, mais alors, du coup, eux, ils sont restés dans les anciens locaux où on était au 15 boulevard Joseph Vallier, se rajoute une auto-école sociale, qui là, par contre, est une association loi 1901. Okay. Parce qu'eux, ils ont un agrément préfectoral d'auto-école. Donc, certaines personnes que nous, on a accompagnées ici, vont après basculer sur l'auto-école sociale s'il y en a besoin. Mais c'est beaucoup plus petit, hein, c'est un tout petit service. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Et où là, du coup, bah, il y a le permis, évidemment, est moins cher, ça, on est bien d'accord. Mais c'est surtout le côté pédagogique qui est mis en avant. Et on ne rentre pas à l'auto-école sociale comme ça, quoi. C'est pas une auto-école à vitrine, les gens sont obligés de passer d'abord par chez nous.
Okay.
Donc, et d'apprendre à faire du vélo, et d'apprendre à garder le plan. Et sur l'auto-école sociale, ils ne prennent pas des personnes qui ne sachent pas faire des vélos, ou parce qu'ils savent qu'autrement, ça prend des temps. Heures, et voilà, ça va. Puis ça ne va pas aboutir, quoi. L'objectif, c'est de ne pas mettre les personnes en échec. Donc, réussir à apprendre à faire du vélo, ça peut être aussi important que d'obtenir son permis.
Claire, hein.
Alors là, on a pris la décision d'aller jusqu'à Maisonneuve, donc de traverser le parc. On est au niveau de la régie de quartier. Et on va traverser le parc pour prendre le bus, aller à Maisonneuve, aller jusqu'au terminus à Hébin. Et puis, puisque ça ressemble un petit peu à la campagne, bah, aller voir un petit peu jusqu'où peut nous emmener le bus.
Donc je viens de récupérer de l'eau du Verderet qui passe à Hébin, c'est qui ensuite est recouvert par la construction humaine pour ressurgir dans l'Isère vers le musée de Grenoble.
Ouais. Oh, qui veut boire un peu d'eau de l'eau du Verderet?
Où peut-on aller avec un ticket de bus? Dans un endroit agréable.
Au moins au Verderet.
Ouais, au moins au Verderet. Moi, je suis allée voir le bus, le machin, pour justement venir en transport en commun. Mais en fait, mon bus à moi, il faut que je prenne la voiture ou le vélo jusqu'à la Nationale. Après, je prends le bus qui passe jusqu'à la gare routière, donc sur le cours Libération. Donc après du cours, il faut que je reprenne. Soit j'emmène mon vélo, mais je ne peux pas le mettre dans le bus, en fait. C'est compliqué avec les chauffeurs. Donc, je ne peux pas avoir mon vélo, puis refaire un petit coup de vélo ici. Il faut que je reprenne un autre bus.
Oui, mais donc,
j'ai du 36 heures et du sac.
Nous, les solutions, quand on est extra... Enfin, moi, sur le... C'est... Parce que j'ai essayé, moi aussi. Hein. J'ai essayé voiture jusqu'à Voiron, train jusqu'à la gare de Grenoble, et après le train, et après... Enfin,
et puis, ça m'a...
Je pense que cette question, elle s'adresserait plus... à des gens qui sont dans la ville.
Par c'est pas con, mais on est des milliers. Moi, le matin, je suis bloquée à Voreppe. On est des milliers de voitures à venir en transhumance jusqu'à Grenoble tous les matins. Et à venir repolluer. Hein.
Moi, par exemple, dans mon cas, moi, je suis comédienne et en fait, une des principales fonctions du métier, c'est de bouger de ville en ville.
Et bien, il faut que tu arrêtes. Et
voilà, donc moi, la mobilité, ouais. Du coup, c'est vraiment une question complètement primordiale dans mon métier, quoi. Et c'est vrai que je me retrouve à faire pendant un week-end, à partir un samedi, faire 800 km, jouer le soir et repartir le dimanche et refaire 800 km en sens inverse sans avoir finalement rien vu sur le trajet, parce que là, clairement, c'est l'objectif l'important. C'est pas le voyage.
Voilà, ça c'était le mardi 29 septembre. Donc on a commencé à la régie de quartier ce petit chemin. On est allé ensuite à la plateforme mobilité. Ensuite, on a décidé de prendre le bus, d'aller jusqu'au terminus, où on a récolté de l'eau du Verderet, qui est un ruisseau qui passe sous Grenoble, exactement, en fait. Qui commence vers Briey-en-Gaune, il me semble, qui descend, qui arrive à Hébin. Et à la frontière Hébin-Grenoble, en fait, il passe sous terre, il a été canalisé. Il me semble qu'il court le long de l'avenue Jean Perrot. Et puis... ça s'arrête.
C'est pour ça qu'il y a des écoles du Verderet, des choses du Verderet.
Il y a l'école du Verderet sur le village olympique. Donc, a priori, moi, de ce que j'en sais, il n'est pas à côté de l'école du village olympique. Par contre, il y a l'allée du Verderet à la Villeneuve, et qui est à proximité du Collège des Saules. Et en regardant, en essayant de me renseigner, j'ai l'impression que ça passe à proximité.
Et il se jette dans l'Isère au niveau du pont
du musée.
Ouais. Du musée. Pont, comment ça s'appelle ce pont?
Le pont piéton.
Ouais. Pas très loin du pont piéton.
Marius Gontard? Non, c'est le pont piéton.
Aucune idée.
Et le petit chemin, c'est fini à la régie de quartier pour un petit débriefing avec tous les personnes qui étaient venues. On n'était pas très nombreux quand même.
On était 6.
On était 6, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous dire un petit mot sur le spectacle qu'il y avait? Et juste, moi, en rajoutant, on avait à ramasser des choses pour mettre dans l'arche qui nous servirait à garder ce qu'on voudrait garder d'aujourd'hui pour montrer plus tard. Voilà, c'était un peu le thème aussi de la balade.
Oui, jeudi et vendredi, il y avait le spectacle de Gaia Global Circus. Et c'était gratuit pour ceux qui avaient participé aux acteurs de curiosité territoriale. Donc c'était assez sympathique. C'était sur comment les scientifiques ont un petit peu mis le réchauffement climatique sur la scène mondiale, en fait, sur la scène médiatique. Comment ça s'est passé au début, comment rendre un petit peu audible ce discours qui est très technique Et aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, de montée des eaux, quand on monte des courbes de CO2, en fait, aujourd'hui, ça nous fait écho, alors que dans les années 80-90, c'était très difficile, en fait. Et c'est là-dessus qu'ils ont travaillé. Et puis, il y avait un petit peu des jeux de lumière. Moi, j'ai trouvé ça sympathique, mais j'étais avec quelqu'un d'autre qui était un peu plus du spectacle. D'ailleurs, Lisa qui a participé à la journée le 29 et qui a trouvé ça un petit peu moins intéressant sur le plan artistique, mais voilà.
Ok, merci pour cette présentation. On va faire une petite intermède musicale et donc juste pour une phrase de présentation. Donc l'artiste qu'on va écouter, elle s'appelle Aqua Naru. C'est donc une voix du hip-hop féminin. Elle a largement ouvert le champ du rap acoustique, accompagnée par des musiciens en studio comme sur scène. Elle nous enchante par des musiques prenantes et des thèmes pleins de force.
Gunshots, another body drop. Grandma waiting at the bus stop. County jail letter in the mailbox. House shoes and sweat stock. Keisha braiding heads on the porch to get that extra glop. Addiction facing rock bottom. Pray she bounce back on top. American dream, a nightmare. Please make it stop. Neighbors watching hell. Modern day dress, got clinging rocks. Black boy, white tank top. Baggy jeans, dreadlocks. Dreaming of that drop top. Non-stop Chinese spot. Let me get a black in my eyes. Navigate liquor stores, project floors, and vacant lots. We be the have-nots. When we have, we become what we got. Another car ride by system knocks. That new shit pedestrians jock. Hip hop corner, stay a track in the flock. The paint immaculate watch. Single mother's hustle to punch the time clock. Crime a cash crop. Somebody running the dime drops. Ice grills, mask a kind. Hard ass time tops. Father's a hologram. Son's waiting for the day to snuff Uncle Sam. Why not? No sympathy for that man. He get what he deserves. Damn. Say he get what he deserves. Of a purse scattered, leftover be shattered, clothes tattered, lipstick smeared, broken glass, no news report on the matter. Nobody gathered, nothing changed after round bow the name. Some said Tamika, some claimed Lorraine. The tag on the foot said Jane. I wonder who she was. Did she give and receive love? Did she fight back or just gave up? She laid dear legs, cold hair, gold, framed in the child's clothes, bruised nose, seen the same pantyhose. Sade on the radio, so I was singing through the window. I wonder if pain has a tempo, I bet it's slow. Streets survive, never live, then we die. Dreams deferred, glass feeling high, born on the wrong side. Is there a right side? Classified the labor, sold for nickel and dime. And who decides? Our lives by signing on the dotted line. Next week they gentrified, push us outside the city lines. Sirens frame the evening, profile of being not white can breathe and walk in the streets. Board cops, they fiending, probable reason. No donut shops to tease and roll up. Worn a couple cats, standing speaking. Mexicans, but they screaming Puerto Ricans. They thinking they all the same. Fuck them, blow out their brains, killing season. It's war out, wish they could take us all out. Let the dogs out, niggas should be hanging from trees. Auction off now, roll them up, blast them till they all down. Fire shots at full force now, we'll never see the courthouse.
Vous êtes sur Radio Kaléidoscope et vous écoutez l'émission Aura des rues. Donc, nous avons parlé des acteurs de curiosité territoriale et nous allons passer au jardin olympique. Marie-France, est-ce que tu pourrais nous présenter ces jardins ?
Jardin olympique, c'est-à-dire le jardin, les jardins partagés ou le jardin collectif du village olympique qui se trouve derrière l'Institut des métiers, je crois, juste après notre tunnel, là, sur la droite, un peu caché entre les immeubles. Voilà, donc on va écouter tout d'abord un dimanche après-midi deux jardiniers, un jardinier et une jardinière qui nous ont fait des commentaires sur leur travail. Et entre parenthèses, si on veut voir le jardin olympique sans y aller, à la radio on ne peut pas le voir bien sûr, il y a un blog qui est le blog du jardin olympique. Il n'y en a pas deux, hein. On tombera tout de suite dessus, où là on peut voir des photos, il y a des illustrations, il y a toute l'histoire du jardin olympique si on veut se renseigner davantage. Donc on écoute Monsieur Alouche et Zora pour commencer et après on en saura un peu plus sur le jardin olympique.
C'est intéressant.
Oui.
Voilà.
Bonjour, monsieur Alouche.
C'était dimanche après-midi.
Vous êtes nouveau jardinier, vous
oui.
dites Oui. Donc, là, vous étiez en train de préparer la terre.
Oui, préparer la terre pour cette année ou peut-être l'année prochaine.
Oui.
Parce que la terre, elle est pas, pour le moment, elle n'est pas bon. Ils n'ont pas, sont pas bien travaillé la terre.
Avant, oui. Qu'est-ce qu'il y avait avant, là
Des petits carrés, mais c'est pas tourné, la terre. Ils ne sont pas tournés la terre, ils mettent le... Comment ça s'appelle le...
Les courges.
Ah, non, les courges, je sais, mais la terre. Avant, ah, c'était... c'est pas la terre.
C'est, si, c'est de la terre, mais... C'était
comme ces auras, autre jardinière
voilà,
qui était intervenue dans la cage.
Je suis, voilà, je prends la parole comme ça, parce que M. Alouche, il disait que c'est pas de la terre. Si, c'est de la terre, mais c'était pas une terre travaillée, parce qu'on a pour principe de ne pas déranger la terre, de faire... quelque part de la permaculture, de respecter tout ce qui vit sur terre et surtout sous la terre, c'est-à-dire tout ce qui est vers de terre, enfin c'est pas les vers de terre classiques. Et donc M. Alouche, il travaille d'une façon plus traditionnelle, voilà. C'est ça
oui.
C'est ça, lui retourne la terre, nous on la retourne pas.
Et là, tu es en train de déchirer des morceaux de carton.
Voilà.
Ça sert à quoi? Tu vas le mettre
alors,
tu le mets dans
voilà, moi je suis dans la permaculture à fond, c'est-à-dire que je ne dérange pas la terre, je lui donne à manger. Et le carton, là, c'est de la matière sèche. Et je fais une sorte de... comment dire,
il y a une espèce
de lasagne.
De sous-couche, lasagne. Là, vous avez creusé la terre.
Voilà.
Vous avez commencé à mettre des bûches de bois.
Voilà.
Tu es en train de rajouter des cartons.
Je fais des lasagnes, je fais des couches.
Des couches.
Oui, ça s'appelle des lasagnes.
Des lasagnes, voilà. D'accord. Et après, tu vas remettre
et
la
terre. Après, je remets la terre que j'ai enlevée. Et puis après, je mets du compost. Et après, je mets de la... je sèmerai. Je sèmerai d'abord, je mettrai...
Qu'est-ce qu'on met, de la moutarde?
Oui, des grains de moutarde, on peut mettre là-bas, tu vois, sur la butte que j'ai déjà faite, j'ai repiqué mes poireaux, j'ai piqué des salades,
ah,
tout
oui,
ça, ça fait aussi engrais, même si ça se mange, mais ça nourrit, ça se nourrit entre soi.
D'accord.
Voilà.
Donc vous avez une technique plus traditionnelle? Vous préparez la terre, là,
la terre, après...
Elle est ratissée, elle est belle, oui.
Après, on verra, on va planter quelque chose, ça sort bien.
Voilà, ça fait longtemps que vous connaissez le jardin olympique?
Je connais, mais je n'ai pas pris. C'est la première année.
C'était d'attente, oui.
Voilà, c'était donc une petite ambiance dans le jardin, au ras de la terre et dans le jardin olympique. Maintenant, on va écouter Alain et Marie-Claire, qui sont deux parmi les plus anciens des jardiniers du village olympique et qui vont nous expliquer un peu son histoire, son fonctionnement, voilà. Donc, Marie-Claire et Alain. On les écoute.
Oui, bonjour. Donc, nous sommes chez Alain et Marie-Claire, qui font partie des plus anciens jardiniers du village olympique. Peut-être... Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Marie-Claire. Alain, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de ce jardin olympique? Depuis quand il a été créé? Quels ont été les initiateurs?
Alors nous sommes aujourd'hui, nous terminons la quatrième saison du Jardin Olympique. Ce jardin est parti d'une idée de Jean-Loup Massé, qui est à l'Union de Quartier, et c'est l'Union de Quartier qui s'est fait porteuse au début de ce projet. On a mis en place pendant 2 années scolaires, c'était assez long. Il y avait là une quinzaine de personnes qui étaient intéressées pour l'idée de faire des jardins, et nous avons été aidés par la ville, par
Il y avait des terrains disponibles.
Il y avait du terrain, un terrain était disponible, voilà, avait été repéré, et donc on a passé un an et demi à se donner une charte à signer avec la mairie et à se donner un règlement intérieur, à savoir ce qu'on voulait en faire de ce jardin partagé, voilà. Et après cette année et demie de travail autour d'une table,
en amont,
on a pu enfin se mettre à nos belles et à nos outils. Voilà.
C'était en quelle année ça?
Et ça, c'était ça remonte à il y a 4 ans. Enfin, c'est la dernière année. Nous terminons la quatrième saison. Donc, je ne sais pas, ça fait quoi, 2011 ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et nous avons donc eu chacun 20 mètres carrés à cultiver personnellement.
Donc, ce sont des parcelles.
Chaque jardinier a une parcelle personnelle qui lui est allouée. Alors nous étions 20, il y avait 25 parcelles au début du jardin. 2 ans après le début de ce jardin, la commune a considéré que c'était une bonne expérience et a accepté ou a proposé que l'on double la surface. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de jardiniers. Voilà.
Est-ce que, au niveau du fonctionnement, donc je crois que c'est la maison des jeunes qui chapeaute un peu administrativement le fonctionnement.
À la fin des 2 premières années scolaires dont je parlais, l'Union de quartier ne s'est pas sentie en capacité de gérer cette affaire. Le centre social n'a pas voulu non plus le faire, et c'est la MJC qui a accepté de considérer le jardin comme une de ses activités du secteur adulte. Et donc aujourd'hui, c'est une activité de la MJC. Autrement dit, les jardiniers sont obligatoirement des adhérents de la MJC. Ils y payent leur adhésion et ils payent l'eau qui est utilisée pour jardiner.
Voilà. Marie-Claire, je crois que tu es médiatrice du jardin. Est-ce que tu peux nous
expliquer? Je ne suis plus.
Bah, tu peux nous dire le rôle des médiateurs.
Donc les médiateurs... Nous sommes aujourd'hui 8, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a eu un temps de jardinage où il y avait la moitié du jardin était en jardin travaillé collectivement et la moitié seulement en parcelle. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des parcelles avec des espaces collectifs pour des aromates, des fleurs, voilà.
Où tout le monde peut
des
servir.
Des petits arbres fruitiers, voilà, où tout le monde peut servir.
Cultiver surtout, pas seulement servir.
Oui, surtout, tout à fait. Et donc, médiateurs, nous sommes aujourd'hui dans le jardin, il y a 8 médiateurs. Ces 8 médiateurs se réunissent une fois par mois avec l'agent de développement local, Abdelkader, pour différentes tâches, déjà faire le point sur la liste d'attente et revoir s'il y a des parcelles qui se libèrent et qui sont à réattribuer.
La liste d'attente, il y a beaucoup de personnes qui
au
attendent.
Jour d'aujourd'hui, aux dernières nouvelles, 26 demandes. Mais on sait que ça tourne, que voilà.
Les gens quittent le quartier.
Les gens quittent le quartier, voilà, ça. Il y a des turnovers assez naturels qui se passent. Et donc le médiateur, déjà la première mission, c'est de faire passer la communication entre les jardiniers, de tutorer un nouveau jardinier qui arrive pour qu'il connaisse le règlement et puis aussi l'usage du compost, les habitudes de convivialité, tout ce qui se passe entre jardiniers. C'est également le souci des médiateurs, c'est de suivre aussi le budget que l'on a à gérer au jardin avec l'ADL, toujours Abdelkader. D'autres missions, bah bien évidemment, c'est d'être médiateur, c'est-à-dire que s'il y a des soucis entre 2 jardiniers, des soucis avec un jardinier qui ne respecte pas le règlement, c'est d'être médiateur, d'être entre les deux pour essayer de régler les choses au mieux. Voilà. Et est-ce que j'oublie des choses dans la fonction du médiateur?
Maintenant, Alain, tu pourrais nous dire pourquoi tu es jardinier?
Ah ben pourquoi je suis jardinier ? Avant ce jardin-là, j'avais déjà eu 3 jardins, parce que j'adore jardiner. Et quand je suis venu il y a 25 ans, un peu plus de 25 ans maintenant, au village olympique, eh ben, j'ai perdu mon jardin. Et donc, j'étais en train de chercher par Google Earth une zone de jardinage dans le coin, le plus près possible de ma maison, quand j'ai appris que ces jardins partagés étaient lancés, l'idée était lancée. Donc c'est pour ça que je suis précipité, tellement j'aime jardiner. C'est vraiment un sport, enfin c'est une activité tout à fait excellente pour la santé. On y oublie les soucis, on est obligé de faire du sport, puisqu'il faut se baisser, se lever, se déplacer. Voilà, et comme je le disais un jour, moi je suis perclus de rhumatisme si je ne fais pas de jardin. Et le fait de faire du jardin fait que...
C'est bon pour la santé.
Voilà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, et ça nous met en contact avec la nature. Et ce que j'ai découvert dans ce jardin, qui est beaucoup mieux que ce qu'on appelle les jardins ouvriers, c'est que comme c'est un jardin partagé, on y rencontre 50, enfin beaucoup plus que 50 voisins que jusque-là on croisait sans à peine leur dire bonjour, quoi. Alors que là, il y a une espèce de possibilité extraordinaire de dialogue. Puisqu'on est centré sur la culture, hein, eh ben, on rencontre, je dirais, les cultures du monde dans ces jardins.
Oui, voilà, et on voit effectivement différentes façons de cultiver les jardins, voilà. Les jardins à la turque, à l'algérienne.
Voilà, il y a différentes façons de cultiver les jardins. Alors, au sujet de la culture des jardins, on a bénéficié, grâce aux deniers des pouvoirs publics, de formation, de temps de formation, oui. Qui nous amène à jardiner de façon moderne. Voilà, et non pas notre façon classique.
On a parlé de permaculture, des stages.
Voilà.
Une autre chose que je voulais aborder, c'est qu'il y a certaines parcelles qui sont réservées aux enfants, aux handicapés.
Tout à fait.
Oui, voilà.
Il y a une parcelle pour les enfants de la maison d'enfance qui fonctionne. Il y avait aussi 3 parcelles pour le foyer des poètes, pour des personnes à mobilité réduite. Donc,
on peut remercier Chantal Leveau qui avait cette idée-là. Il fallait qu'on pense aux personnes handicapées du Jardin des Poètes.
Et qui a fait partie du groupe de constitution du jardin. Il y avait aussi une parcelle pour le foyer de jeunes travailleurs qui peut-être là, actuellement est en changement, mais il y avait aussi cette parcelle-là. Aussi une parcelle pour un centre de jour à Fipaim.
Ah oui.
Voilà, donc ce qui fait que c'est un jardin où il y a le mélange de tous les habitants
à ce moment-là,
du quartier.
Avec ces cas particuliers, il y a une animatrice, non, qui
tout à fait, tout à fait. Pour la maison de l'enfance, il y a un animateur de la maison de l'enfance. Pour effectivement pour les parcelles du foyer des poètes, en général, un éducateur accompagné pour aider les personnes. Et pour l'accueil à Fipaim également, il y a une éducatrice.
Il y a une médiatrice, une animatrice, Erika,
qui est depuis un an ou deux, qui vient de la régie de quartier et qui a le souci de superviser, de donner des tuyaux et conseils pour le jardin et des formations.
Voilà, donc j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les jardins olympiques. Donc vous êtes toujours sur l'émission Aura des rues à Radio Kaléidoscope et nous allons enchaîner par une petite intermède musicale. Donc le morceau s'appelle Diogène, c'est un morceau de l'artiste parisien 7, extrait de l'album Le jeu du pendu. C'est le portrait d'un homme qui passe de la réussite sociale à la rue. Le nom du morceau est inspiré du philosophe grec qui prenait plaisir à choquer et à vivre hors des codes sociaux.
Moi je disais à lui, c'est pas possible.
Regarde où on est. Regarde. Tu crois qu'ils ont quelque chose à foutre?
Moi je les baise, moi. Je les baise tous et je les baise toutes. Les connards aux attachés caisses peuvent aller se faire foutre. C'est eux qui foutent que je crève et c'est moi qui les dégoûte. Je suis sur le quai à Pont-de-Sèvres, je parle à ma cesse, pas un qui me. m'écoute. Sont la bougeotte et ça se dit normal. Quand je suis à court club, je rapote l'industrie locale. J'ai plus d'amour propre depuis que j'ai mis au sale. Me sens comme un cafard sur une nappe, une lame de rasoir sur une chatte. Une Nike face à un cul de chatte ou un slogan en art sur le cul du pape. Dans le temps, j'étais le roi du pétrole. Un mordu de l'école, tu m'aurais connu dans les années folles. Il manquait plus que j'école. J'ai été le meilleur aux examens. J'ai eu une femme et des gamins. Les employeurs mangeaient dans la main. Je me noyais dans des forêts d'escarpins. Quand je posais des lapins, ça sentait le sapin. Je mettais le grappin sur ce qu'était le gratin. J'avais toutes les vampes que je voulais. Moi, je les faisais boire, elle me saoulait. À chacun de mes exploits, l'encre coulait. Je mettais des crampes à tous les poulets. Du jour au lendemain, restructuration, licenciement vient, expulsion, divorce sanguin, répartition de biens. Je me retrouve en chien, sans rien, jeté de force dans le bain. Privé de mes gosses et traité comme une bête féroce par les gens bien. Alors allez tous vous faire mettre, vous faire enculer. Ouais, je vais hurler. Si vous avez pas une piécette, si vous servirez pas à spéculer, bande de minables. Soyez un petit peu charitable, vous qui pleurez quand l'installateur vous a mal mis le cap. Ce qu'il y a dans le fond de vos cœurs, c'est même pas disable.
Pas peine de revenir là-dessus. Mais, bande de connards! Ouais, du moment que vous avez votre amendement à Canal Plus, notre petit embrun, bah vous en battez les couilles, hein! Ah, rien à foutre! Avant, c'était pas comme ça, avant moi! Et puis j'étais déjà en libre, regarde un peu où on en est! Hein? Et alors la société?
Ah ben, elle nous a laissé se rendre pas côté de la honte, hein!
Ouais, bande d'enculés! Dans le bas côté de la route. Et ça va pas se passer comme ça. Moi, je vais faire des trucs.
Donc c'était l'artiste parisien 7. Nous allons enchaîner sur l'agenda. Et Marie-France, tu voulais nous faire une petite présentation de oui. L'histoire des caddies. Enfin, voilà
qui... c'était. Je pensais que ça valait la peine de signaler que le problème des caddies qu'on voit brûler, en tout cas au village olympique, on les voit brûler dans pas mal de coins. Et ils sont dispersés, ça pose des problèmes et à Carrefour et à certains habitants. Donc récemment, il y a eu une première réunion qui va se prolonger parce qu'on étudie la question apparemment très sérieusement. Donc il y a des représentants des unions de quartiers qui sont concernés par donc, les quartiers qui sont autour de Carrefour, c'est-à-dire la Villeneuve, le village olympique et puis aussi le quartier l'association des habitants du quartier des Granges sur Échirol. Donc c'est pour essayer... Carrefour, bon, en dehors du fait qu'ils perdent des caddies ou qu'ils perdent de l'argent, ils seraient soucieux d'essayer de résoudre ce problème tous les jours deux fois par semaine ou trois fois par semaine, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est chargé de récupérer les caddies qui se promènent dans les quartiers. Donc, ils sont en train de voir comment on peut, à la fois, comment ils peuvent les récupérer, mais à la fois, sachant que c'est quelque chose qui est très utile quand même quand on est dans des quartiers piétons, comme c'est le cas souvent, ou qu'on n'a pas de voiture pour amener ses courses, ils vont étudier, je crois, aussi un système de prêt ou quelque chose pour essayer de garder ce côté pratique des caddies et en même temps résoudre les problèmes au niveau des caddies plastiques qui sont brûlés souvent sur le village olympique. Ça laisse un peu des traces indélébiles, c'est quand même... problématique. Voilà, je voulais juste mentionner ce problème-là.
Ce qui est dommage parce que ces caddies plastiques sont beaucoup plus pratiques et beaucoup moins bruyants que les caddies métalliques.
Oui, mais ils sont moins solides.
Voilà, certes. Bon. La suite aux prochaines réunions.
Faire des barbecues avec aussi.
Voilà.
De toute façon, c'est pas écolo.
Il y en a qui ont essayé qui ont eu des problèmes.
Ben, tu nous donnes la suite de l'agenda.
Allez, on est parti. Donc, dans l'agenda de la semaine à la Villeneuve, on va commencer avec mercredi 7 octobre de 15h30 à 17h30, une concertation concernant les jeux. Je laisse peut-être Antoine en parler un peu plus précisément.
Oui, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, donc je resitue. La grande aire de jeux du parc de la Villeneuve, le parc Jean Verlac, celle où il y a le grand toboggan pour les connaisseurs et un trampoline aussi. Un budget a été alloué pour moderniser un petit peu cette aire de jeu. Il y a eu une première concertation, on va dire, pendant la semaine de co-construction. Donc, c'était une semaine qui concernait la rénovation urbaine et quelles étaient les attentes des habitants. Et il y a eu une étudiante en architecture qui s'intéressait à ce sujet-là et qui a mené une concertation toute la journée. Il me semble que c'était le dimanche 12 avril. Et elle en a ressorti en fait un petit peu les besoins des habitants, pendant l'été, les architectes, en tout cas les spécialistes, les techniciens, ont réalisé un plan. Et il y a eu dernièrement une tentative de concertation pour avoir un échange, en fait, entre ce qui a été produit d'après les attentes habitantes et est-ce que ça correspond vraiment aux besoins des habitants. Sauf qu'on était 3-4 personnes.
Et surtout, on n'était que des professionnels, quoi.
Exactement, il n'y avait pas du tout d'usagers. Mmh. En même temps, c'était un vendredi matin à 10h, donc les enfants ne sont pas là, les premiers usagers qui sont à l'école. Et les mères de famille, les parents, les pères de famille n'étaient pas là non plus. Donc on a décidé collectivement que ce serait bien de faire ça un mercredi après-midi sur l'aire de jeu. On espère qu'il fera beau, sinon on trouvera une petite parade. Et l'idée, c'est de proposer plusieurs scénarios et voir ce qui plairait aux gens.
L'idée, c'est de recueillir en fait la parole des habitants sur les jeux qu'ils veulent voir voilà. Sur cette aire de jeu. En fait.
Et on essaye de rentrer dans un processus de co-construction, voir comment on peut faire des allers-retours et trouver des projets adaptés. En fait.
On continue sur l'agenda avec jeudi 8 octobre à 19h, salle 150, l'Assemblée des ateliers populaires d'urbanisme. Donc peut-être que Morgane, tu peux nous en dire un mot vite fait sur le programme de cette assemblée.
Donc on en a pas mal parlé la semaine dernière du programme. Donc je vais juste vous redire les grands axes. Il y a donc des discussions autour, les axes c'est habitat, environnement, économie, éducation,
gouvernance.
Et gouvernance sur dans la rénovation urbaine. Et donc, on va mettre sur la table tous les sujets d'actualité dans ces catégories qui sont les catégories historiques des ateliers populaires d'urbanisme.
Et on y parlera aussi un peu des tables de quartier. On va en parler juste après. Je finis juste sur l'agenda. Samedi 10 octobre, ça sera la brocante de l'Union de quartier 1 à la Villeneuve. Donc, c'est tout autour de la place du marché. Et les inscriptions sont ouvertes au bocal 1, au bocaux 1. Et 2, donc c'est juste à côté du patio. Ça sera donc le mercredi 7 octobre de 9h à midi, le jeudi 8 octobre de 14h à 17h, et le vendredi 9 octobre de 9h à midi. Et pour les particuliers, c'est 8€, et pour les associations, c'est 5€. Voilà, on a fait le tour de l'agenda.
Merci. Alors Ben, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que sont les tables de quartier et comment ça peut être utile aux habitants pour se faire mieux représenter.
Alors, munissez-vous d'un tube d'aspirine et d'un crayon, parce que ça va être un peu compliqué. On va faire un petit retour historique. Alors, on va vous parler du rapport Meshmash-Baké, donc du nom de Mohamed Meshmash, fondateur d'Assez-le-Feu. C'était à... je ne sais plus dans quelle ville.
Région parisienne.
Villiers-le-Bel.
Plus.
Je ne sais plus. J'en trouve. Et de Marie-Hélène Baké, qui est une sociologue. Et ces deux personnes ont rendu un rapport en 2012 sur la refonte de la politique de la ville et notamment comment donner plus de parole aux habitants des quartiers populaires. Donc dans ce rapport, il y avait 30 propositions. Et parmi ces 30 propositions, il y avait celle de créer des conseils citoyens qui étaient censés être composés d'habitants et de représenter les habitants en fait dans toutes les instances de gouvernance de la rénovation urbaine. Alors, c'est de tous ces rapports-là et de ces 30 propositions, une seule, donc c'est la seule proposition qui a été retenue. Donc, c'est bien la peine de faire un gros rapport pour qu'il y ait une seule proposition retenue.
Je peux juste peut-être préciser un petit truc sur comment a été rédigé ce rapport. Ils ont fait un tour de France de tous les quartiers populaires pour recueillir en fait les propositions des associations, des collectifs qui étaient mobilisés dans ces quartiers.
Et du coup, les conseils citoyens ont été inscrits dans la loi, donc c'est la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui est aussi appelée loi Lamy, qui date du 21 février 2014. Et donc cette loi concerne 1514 quartiers dits prioritaires en France, et notamment donc à Grenoble, il y a 4 quartiers prioritaires, un grand quartier Villeneuve, village olympique, il y a le quartier Mistral, le quartier TCR à Bijoux et le quartier Alma Tricloître en centre-ville.
Et puis à Échirolles, il y a la Villeneuve d'Échirolles avec les Granges, il me semble.
Il y a Essert-sur-Yeux, la Luire Viscose et le village sud. Donc après, il y en a quelques-uns aussi. Il y en a un Pont-de-Clé, un Fontaine et un Saint-Martin-d'Hères. Donc du coup, ces conseils citoyens sont inscrits dans la loi. Et donc, chaque ville qui possède des quartiers prioritaires a obligation de créer des conseils citoyens dans cette ville, dans chaque quartier prioritaire. Un conseil citoyen par quartier prioritaire. Alors, pour complexifier un peu les choses, la nouvelle municipalité qui a été élue en mai 2014 a fait campagne sur le thème de la démocratie locale et notamment a fait une promesse de campagne qui était de créer des conseils citoyens dans toute la ville, c'est-à-dire pas que dans le quartier prioritaire.
Le fameux conseil citoyen indépendant.
Alors eux, ils les appellent le conseil citoyen indépendant. Bon, pour l'instant, on va attendre un peu pour voir si ça va être indépendant ou pas. Donc déjà, il y a un problème de nom parce que... Il y a les conseils citoyens indépendants de la ville de Grenoble, et il y a les conseils citoyens selon la loi, qui ne se correspondent pas tout à fait. Donc la ville de Grenoble a créé ces conseils citoyens indépendants, qui ont été lancés en mars 2015, mm-hmm. Les premières réunions ont déjà eu lieu. Il y a 7 conseils citoyens qui ont été créés dans tout Grenoble. Donc il y a un grand conseil citoyen qui concerne les territoires de Villeneuve, Village Olympique, Vigny-Musset, puis les quartiers un peu à l'ouest... Et... Alpin-Allier, et puis Rondeau, il me semble.
Ouais. Non, le Rondeau, c'est trop loin.
Non, ça va jusqu'au cours Jean Jaurès.
Ok.
Ouais, et Beauvert, il me semble.
Beauvert, voilà. C'est ça. Et donc, la ville de Grenoble a créé ses conseils citoyens indépendants. Sauf qu'ils ont aussi, dans la loi, l'obligation de créer des conseils citoyens dans chaque quartier prioritaire. Donc, ils ont décidé d'appeler ces conseils citoyens des tables de quartier. Donc... Pour résumer, et il y a les conseils citoyens dans la loi, s'appelle table de quartier à Grenoble. Et on a les conseils citoyens indépendants qui concernent toute la ville. C'est bon, vous avez suivi ?
Ça va.
Ça va ? Bon. Donc les conseils citoyens ont déjà été créés, et là, ils sont en train de créer notamment les tables de quartier. Donc ils sont en train de faire les recrutements de volontaires. Donc chaque table de quartier sera composée. Alors, c'est un chiffre. Idéal, on va dire, normalement seront composés de 18 personnes, 10 habitants et 8 représentants d'associations ou acteurs du quartier. Ça peut être des commerçants, par exemple. Donc, ils sont en train de faire les recrutements des volontaires. Ils sont en train de faire aussi les tirages au sort parce que parmi les 10 habitants, 5 seront tirés au sort. Donc, ils sont en train d'appeler tous les habitants des quartiers prioritaires pour leur demander s'ils veulent faire partie des tables de quartier. Donc ces tables de quartier sont censées être représenter en fait les habitants et notamment dans toutes les instances de pilotage de la rénovation urbaine et donc sont censées être les interlocuteurs principaux de tout ce qui est organismes nationaux de style Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU.
Pour la fameuse co-construction qui est aussi reprise par la loi Lamy.
Oui, tout à fait. Alors petit problème, enfin gros problème même, problème de taille. Toute la rénovation urbaine est pilotée par un gros contrat qu'on appelle contrat de ville, qui lie en fait collectivités locales, communes, l'État et les habitants. Et les habitants sont censés être représentés, participer à la rédaction de ce contrat de ville par le biais justement des tables de quartier. Sauf que, le contrat de ville à Grenoble a été signé le 9 juillet dernier et que les tables de quartier ne sont toujours pas créées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de représentants habitants dans la rédaction du contrat de ville. Alors que c'est marqué dans la loi que les tables de quartier sont créées justement en partie pour que les habitants puissent être représentés dans la signature du contrat de ville. Bon, alors à la mairie, on se défend en disant qu'ils étaient trop occupés à lancer les conseils citoyens pour... ils voulaient lancer le cadre général qui était le conseil citoyen avant de lancer les tables de quartier, et qu'ils n'ont pas pu lancer les tables de quartier avant.
Ce qui est juste intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu des tentatives côté habitants, et notamment par le biais des ateliers populaires d'urbanisme, d'influencer ce contrat de ville. Et ça a pas mal été reçu, perçu ou communiqué comme n'étant pas représentatif. Et donc c'est assez marrant parce que c'est vrai que quand on n'a pas une instance représentative des habitants, on préfère ne pas en avoir du tout. Qu'en avoir un peu. Bon, voilà, c'est un choix politique, ça pose plein de questions, mais il faut savoir qu'il y a déjà des gens qui sont mobilisés sur le terrain et que souvent, ce n'est pas utilisé. Enfin, voilà, c'est freiné par le temps administratif. Moi, je trouve ça assez dommage.
Et il y a aussi la question du protocole de préfiguration de l'ANRU qui a été livré à la fin de l'été. Et le... donc par les techniciens de la ville, alors que le conseil, la table de quartier n'était pas constituée. Donc c'est une co-construction pour l'instant, qui est une construction plutôt classique en fait.
Oui, c'est plus une consultation pour l'instant que vraiment une co-construction. Alors c'est ça, parce que j'ai rencontré M. Pascal Cloer, qui est l'adjoint à la démocratie locale, et qui disait, mais si, il y a eu des habitants qui ont été impliqués dans le contrat de ville, parce qu'il y a eu la semaine de co-construction en avril, et on en a tiré de cette parole habitante les idées pour le contrat de ville, donc vous voyez bien que les habitants ont été impliqués. C'est un peu une façon détournée de noyer le poisson, parce que du coup ça fait plus consultation que co-construction. La co-construction, c'est quand tout le monde se met autour de la table et décide ensemble ce qu'il y a dans le contrat. C'est pas quand on prend votre avis et puis après on en fait ce qu'on veut.
Bon, peut-être que petit à petit,
oui, oui,
on va arriver à mieux.
Oui, bah, comme dit Pascal Cloer, on démarre, puis à la fin ça ira toujours mieux. Donc on va voir.
De toute façon, quand on est au début des mandats, ils font un peu ce qu'ils veulent et puis à la fin.
Bon, en tout cas, si vous voulez vous inscrire aux tables de quartier, vous avez jusqu'au 16 octobre et toutes les informations sont disponibles dans les maisons des habitants des quartiers concernés. Donc ils sont, je vous le rappelle, Villeneuve, Village Olympique, Mistral, Almatre-et-Cloître et Tesserre, Abbaye Jouhaux.
Ok, merci Ben pour cette petite explication. Et donc, on va se faire une petite pause musicale avec On s'habitue de Rossé. C'est un morceau donc, d'un rappeur parisien qui est très reconnaissable par son flow, sa philosophie et sa poésie. Ce morceau, il part d'un simple coup de batterie et il devient un ouragan de paroles pertinentes et entraînantes. On écoute.
Mec, n'est crainte, mes rimes sont simples, intenses. Écoute le son, l'empreinte, j'esquinte d'essence. J'te lance, juste l'histoire, à toi de comprendre. La feinte, l'Algérie, mon enfance. Puis aller simple, Air France, partir pour le moderne. Ceux qui gouvernent, dont on se dit trop dark. C'est ceux qui nous bernent, Occident. Un nouveau monde, assis dans chaise, trop longue, dissident. Du reste, ou trop d'incidents, fécondes. Exporte ton moderne, même si ça leur sert pas. Un jour, faut bien qu'ils s'en servent, qu'ils n'aiment ou n'aiment pas. Perte de culture, c'est dommage, ça crée des dommages. Voir des jeans chez des nomades, et c'est pour quand l'orage. Alors ils tapent davantage vers ton image. Mais non, on voit que des mirages, je veux qu'ils sachent davantage. S'ils voient au loin une médaille, que d'ici y'a qu'une grosse tache cachée par les nuages. Moi, j'ai mes échos du désert, ils me disent que comme JR, certains portent chapeau bande, Dallas s'en sort moins cher. Ils vivent ton univers, mais dans leur univers, sur leur terre, pas dans l'imaginaire. Ici, je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les crous. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Je croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les crous. D'ici, on voit tout, mais d'hier on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue. C'est toi, t'écoutes trop, c'est terroriste dans l'univers des boss. Un style net et technique, mais un ton bien féroce. Je croyais qu'ici c'était le moteur, les roues du carrosse. C'est juste le fouet et les bottes pour quand les choses se forcent. J'avoue, j'ai été bien guidé, des parents, l'école, une cité. Mais je prends goût à la cité, dès l'enfance partout. Je vois l'absence de sens, le non-sens, la conscience, l'absence de confiance, conséquence. Du coup, petit, on est des brouillards, même si pantouflard, les yeux ouverts, sans foulard, sans mur, sans brouillard. Ceci dit, on aime les sonars, aujourd'hui, tolard. Les héros du squark, les adultes traités de connards. Mais toi côtoyer mes filles, là ils côtoient mon fils. Veulent côtoyer les billets et les filles dans une vie sans risque. Mes potes côtoyer la vie, mais ils esquivent les flics. Côtoient la nuit comme des bandits, font de la drogue, un trafic, ils appliquent. Juste les règles du monde qu'il y a sous ton monde. Je te parle du monde qui gronde, quand tu tiens les problèmes tombent. C'est pas les mêmes savoirs, c'est pas les mêmes pouvoirs. Donc c'est pas les mêmes devoirs ici qui nous inondent. Pourtant les mêmes lois logiquement, les mêmes droits forcément. Avec un boulet au pied, on n'a pas le même poids. Alors on peut s'alléger, s'adapter. L'homme a le devoir de faire client son pouvoir. Et moi, faut que j'esquive le moteur, l'engrenage, la roue. C'est qu'il sert de fouet et botte pour tuer mon crew. D'ici, on voit tout, mais d'hier, on oublie tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout. Y'a un vécu à défendre, y'a une vision à répandre. Et de nous vers eux, y'a une étiquette à leur rendre. Alors, je m'efforce d'apprendre, rentrer dans leur monde, parler. Un langage soutenu qui soutiendrait ma bande. Les yeux ouverts vers le tableau noir, la haine comme motivation. On tape sans modération, on lit des livres qui parlent d'un autre monde. sur un autre ton. On parle de nation, même si on vit dans l'autre rang. Mais passons, faut vivre avec son temps. Pour vivre, faut de l'argent. L'argent vient souvent quand le côté revendication est absent. Attends, mec, tu pars trop vite vers ces gens. Et ils se moquent de ton banlieusard accent. Par contre, ils troquent ton savoir. Ils aiment tes speeches, n'aiment pas tes mimiques. Mais envie tes tripes, ils rient de ta volonté. De ton courage typique, ça t'irrite. Mais tu crois en la reconnaissance et vois le fric. Toi, tu voulais refaire le monde, je te vois refaire ta vie. C'est bien, c'est normal et il en est ainsi. Mais tout ce que tu leur amènes, c'est remanié et retranscrit. Et c'est tes ennemis qui l'apprécient. Tu croyais que c'était le moteur, l'engrenage, la roue. C'est juste le fouet et les bottes pour forcer les crous d'ici. Tu vois tout, mais d'hier tu oublies tout. Et même si t'oublies rien du tout, on t'habitue, c'est tout.
Vous êtes sur Radio Kaléidoscope, l'émission, vous écoutez l'émission Aura des rues. Donc on a bientôt fini cette émission et je vais clôturer, je garde la parole cette fois-ci pour vous faire une petite visite d'un fragment de la Villeneuve. On a parlé des jardins olympiques, donc au village olympique, et moi je vais vous parler des jardins du Silo. Donc je vous invite à descendre du tram A à l'arrêt Arlequin. Vous traversez les rails en allant vers le pied de la Villeneuve et vous allez trouver en face de vous un petit parking. Vous le traversez, bon, un parking moyen. Vous le traversez et sur votre gauche, après la rangée d'arbres, vous avez un bloc de béton qui s'appelle, en fait, c'est un parking silo. Donc c'est un parking fermé avec des box à l'intérieur. Ce parking silo est recouvert de végétation grimpante. Vous continuez, donc vous traversez le parking et vous passez sous une passerelle qui rejoint l'immeuble au premier silo que vous avez sur votre gauche. En face de vous, il y a un autre silo, un autre bloc de béton que vous avez en face. Vous prenez légèrement sur la gauche et là, sur le silo, vous allez chercher l'escalier pour monter sur le toit. Bon, c'est un petit escalier, quelque chose un peu, très, très minimal. Donc, vous vous retrouvez sur le toit, et là, en face de vous, se trouvent des bacs, des gigantesques bacs jardinières en béton, à peu près haut de 1 mètre, remplis de terre très bonne. Et depuis 3 ans, des jardiniers sauvages qui se sont organisés à la Villeneuve ont investi en fait ce lieu qui était en friche, l'ont défriché et ont cultivé des légumes. C'est totalement autogéré. Il y a des gens qui cultivent beaucoup, comme Mehmet. Il y a eu des associations qui ont fait du jardinage, notamment le Baratin, qui a produit quelques légumes pour son restaurant. Et voilà. Et il y a pas mal de familles. Ce qui est intéressant, c'est que ce jardin, c'est aussi une place goudronnée où moi, je me rappelle un été, un après-midi, avoir regardé par mon balcon qui surplombe ce silo, qui est au milieu de ce qu'on appelle une crique à Villeneuve. Et il y avait des vieilles dames qui buvaient le thé et une maman qui jouait au foot avec ses enfants. Voilà, je m'arrête ici. C'était Aura des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
À la semaine prochaine.
C'était Aura des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope. 97 FM. À la prochaine. Yeah.